42 32 15 15, Pierre-Louis Basse.
Et nous sommes ensemble encore pendant une bonne heure avec mes invités. Je salue Jean-Marc Parisi. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous avez écrit notamment un formidable physique chez Stock. Et vous êtes bien sûr la caution littéraire bienvenue, idoine j'ai envie de dire, puisque votre histoire de rajeunissement tombe à pic. Jeune pour l'éternité, ça va être notre deuxième grande partie dans À l'air libre. Je salue Sylvie Abraham, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien plastique, auteur de l'ouvrage et en particulier d'un très bon chirurgien esthétique au masculin. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses avec vous. Et je salue également le psychanalyste et expert auprès des tribunaux, Jean-Charles Cumins Nayebi. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, jeune pour l'éternité. Tout d'abord, une petite présentation. Sylvie Abraham, vous voyez beaucoup de monde et de plus en plus de monde, par exemple chez les garçons, chez nous.
Oui, on voit maintenant de plus en plus d'hommes. Les femmes, c'était un phénomène bien connu depuis longtemps, mais ouais. Les hommes, depuis 10 ou 15 ans, il y en a de plus en plus.
Bon, alors, Jean-Charles Cumins, pourquoi souhaitons-nous rester jeunes d'abord, d'une façon très, très basique? Pourquoi cette folie de la jeunesse éternelle?
Parce que la jeunesse représente quelque part un souvenir mémoriel dans nos têtes, d'un état de pouvoir, d'un état de frénésie, d'un état dans lequel où nos forces sont réunies et répondent à notre appel, ce qui n'est évidemment pas le cas de la vieillesse. Et il y a une nostalgie de l'ensemble de ces facultés perdues ou en perte qui fait qu'il y a une tendance à vouloir retrouver la jeunesse à tout prix.
Alors ça m'intéresse, ça nous intéresse, parce que, et on aura beaucoup de questions à poser à Sylvie Abraham, parce que ça c'est quand même une chose, Jean-Marc Parisi, qui n'est pas nouvelle, hein, qu'on ait envie de rester jeune, mais on ne sait pas toujours charcuter les uns et les autres, y compris le sexe. Moi, Jean-Marc Parisi, je voudrais qu'on revienne sur votre livre, donc physique. Il se trouve que Sylvie Abraham l'a lu, et je suis très heureux, parce que ça permet d'instaurer peut-être plus facilement un dialogue. Je me suis couché cette nuit avec le visage que tu m'as connu, dit Patrick Langevin, votre héros, et je me suis réveillé ce matin dans cet état, c'est-à-dire 20 ans plus jeune jusqu'à sa totale disparition. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accoucher de ce personnage?
C'est-à-dire dans le livre, il faut bien préciser une chose, c'est que le personnage rajeunit,
avocat
au fait de sa gloire, rajeunit de 15 ans en une nuit. Voilà. Et sans intervention, d'une certaine façon.
Il fait une surdose de...
Non, il fait pas une surdose. C'est-à-dire qu'il prend des médicaments pour tenir. Il prend des médicaments, il prend des produits, des substances, que j'appelle des substances, pour travailler plus, pour plaider mieux. Mais il se trouve que le rajeunissement en une nuit, évidemment, ça relève du fantastique et que ça n'a rien à voir avec les médicaments. Dans le livre, le rajeunissement, il est considéré chez Langevin comme un châtiment. Parce que quand il passe de 40 ans à 25 ans en une nuit, évidemment, sa vie sociale est totalement bouleversée. Surtout dans un métier aussi visuel, aussi spectaculaire que l'avocat.
Parce que le problème de votre héros,
si vous me
permettez, le problème de votre héros, Jean-Marc Parisi, si vous me permettez, c'est que cet homme n'était pas préparé à ce rajeunissement de 15 ans. C'est-à-dire qu'il prenait certes des médicaments, mais ces médicaments ont eu un effet tout à fait inattendu, parce que les autres patients qui prenaient ces médicaments n'ont pas vu ces résultats. Donc il y a eu on ne sait d'ailleurs pas dans votre roman finalement pourquoi il a rajeuni, puisque finalement il va revenir à l'état quasiment fœtal, et il va y avoir une succession, il va avoir 8 ans, il va redevenir bébé. Donc d'une part, évidemment, la pilule miracle, on le saurait si ça existait, mais surtout cet homme va avoir une grande crise existentielle quand il passe de 40 à 25 ans, parce que il ne l'a pas désiré, il souhaitait rester dans l'état où il était, et il n'est pas préparé. Alors ça, effectivement, on peut, de par mon métier, savoir qu'un patient qui n'est pas préparé à une intervention de chirurgie esthétique et qui ne l'a pas souhaité n'en appréciera pas les effets. Et ça, c'est entre autres le drame de votre héros.
Jean-Marc, alors, répondez ensuite.
Ça m'intéresse beaucoup. Non seulement il n'était pas préparé, mais si j'ose dire, il s'en fout. Il se foutait de rajeunir. C'est
absolument,
quelqu'un,
tout allait bien en fait. Tout allait bien en fait.
Ce qui me paraît intéressant dans le cas de Langevin, c'est qu'il a jamais voulu rajeunir et c'est qu'il assume totalement, il assumait totalement son côté légèrement ventripotent, sa calvitie naissante. C'était un homme. C'était pas un animal régressif.
Il avait tous les succès dans tous les domaines.
Et en plus, il avait à 40 ans tous les succès.
Voilà.
À 25, beaucoup plus beau, beaucoup plus jeune. C'est la catastrophe. Il ne plaît plus. Le charme a disparu. C'est-à-dire qu'il devient une espèce de peau, mais une peau morte.
Et puis, il y avait un décalage. Votre héros, d'un seul coup, il y a un grand décalage entre son physique et ce qu'il est. Parce qu'évidemment, la clientèle de cet avocat parisien très célèbre ne lui fait plus confiance. Alors que, justement, dans le domaine de la chirurgie esthétique, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que il faudrait imaginer votre héros Langevin, non plus à 40, mais à 55 ans ou 60 ans. Et là, finalement, eh bien, la clientèle va plus lui faire confiance parce que, justement, il est moins battant, moins brillant que les plus jeunes et il a besoin justement de gagner, plutôt de perdre quelques années.
Alors Jean-Charles Naïebi, vous êtes psychanalyste et je voudrais quand même vous poser une question. Je sais bien que Sylvie ne va pas être très contente, mais tant pis. Engagez-vous un peu Jean-Charles Naïebi, est-ce que ce n'est pas franchement un peu grave de tout mélanger là finalement de plus en plus quand on voit les magazines qui marchent d'ailleurs et qui fonctionnent très très bien, c'est ces femmes de 70 ans qui voudraient donner l'impression d'en avoir 25 ou 30, nos grands-mères d'hier qui veulent jouer aux jeunes filles, c'est pas inquiétant quand même ça, non?
Ça peut se concevoir ainsi, évidemment, mais c'est le problème de tout excès et de toute démesure. Le problème de la démesure, c'est que ça véhicule entre le ridicule et entre la gêne. Il y a une sorte de désubjectivation lorsqu'on est face à la démesure. Alors, évidemment, ça m'inquiète, pour ainsi dire, pour répondre à votre question, oui ou non, parce que cette préoccupation de la beauté et de la jeunesse ne date pas d'aujourd'hui. Cette préoccupation-là, à travers l'histoire, notamment par exemple en étudiant la mythologie, on peut voir que cette préoccupation-là a existé.
D'accord, mais Jean-Charles Naïebi, quand on est gros ou grosse, et moche selon les canons de la beauté, plein ou pleine de boutons et qu'on veut postuler un emploi, c'est plus dur. Ça devient de plus en plus dur.
Il y a une discrimination, il en est ainsi non seulement pour des affaires esthétiques, mais pour l'âge chronologique, il se trouve qu'à profil égal, si vous avez 30 ans, vous avez plus de chances de trouver un emploi, lorsque vous cherchez un emploi, que si vous avez 40-45 ans.
On reste ensemble, bien sûr, hein, tous les trois. On va évoquer cette jeunesse pour l'éternité avec Sylvie Abraham et vous, Jean-Charles Naïebi, après l'info. Jean-Marc Parisi, c'est aussi cela, en creux, que vous vouliez, d'une certaine manière, un peu railler dans votre livre.
Ah oui, il faut préciser, c'est pas un livre sur la chirurgie esthétique, puisque il n'y a pas d'opération. Simplement, le type est obligé de mentir. Il est obligé effectivement de dire
bon, c'est un mensonge.
C'est un mensonge. Ouais. Mais c'est un livre sur le rajeunissement. Et c'est un livre qui raille, même qui va un peu plus loin que railler, qui critique d'une certaine façon l'infantilisme. L'infantilisme, parce que d'une certaine façon, Langevin est un type qui s'affronte au temps, et il faut s'affronter au temps dans tous ses dégâts et en même temps dans tous ses succès.
Ouais.
C'est ridicule. Enfin, pour moi, si vous voulez, la chirurgie esthétique, c'est grave.
C'est grave.
Ouais.
Bon, bah écoutez, on va revoir bien sûr tout cela avec Sylvie Abraham et Jean-Charles Naïebi, donc psychanalyste, et vous donc après l'information, en rappelant donc que vous êtes l'auteur de ce texte superbe, en tout cas moi que j'ai adoré. Je suis pas le seul d'ailleurs. Je sais que Frédéric Mitterrand sur Europe vous a reçu et qu'il a aussi adoré un grand livre donc physique chez Stock. Et puis on parlera également du travail du docteur Sylvie Abraham qui est avec nous sur la chirurgie esthétique au masculin qui manifestement de plus en plus fait un carton. Il est 15h sur Europe comme partout ailleurs. Et l'information avec... C'est à l'air libre jusqu'à 16h. Nous sommes dans la jeunesse éternelle, la chirurgie esthétique, le roman. Et dans une troisième partie, nous serons sur les plages, les plus belles plages en Corse et ailleurs, et à Paris Plage aussi. Nous serons avec Nicolas Tourette, avec Pierre Cesarini, qui nous dira, lui, qu'il faut aimer la plage et le soleil, mais tout de même de façon assez modérée. C'est à l'air libre et en direct. Nous serons également pour notre coup de fil d'été tout à l'heure avec le camarade Jean Benguigui. À tout de suite.
01 42 32 15 15, Pierre-Louis Basse.
Tout de suite, c'est maintenant Jean-Marc Parisi, mon invité Sylvie Abraham et Jean-Charles Naïebi, psychanalyste. Sylvie Abraham, vous vouliez insister aussi, vous, sur l'aspect séduction, c'est-à-dire que on se fait refaire un petit peu le nez, enfin, et autre chose, et beaucoup de choses, aussi pour plaire.
Bien sûr, personne n'aime être laid, personne n'aime vieillir. Ça fait partie effectivement de notre désir qui est commun à tous, hommes, femmes, quel que soit notre âge, notre désir profond de séduire les autres, de les séduire pour l'amour, de les séduire pour,
Sylvie, pour être aimé. Et la beauté intérieure qu'on fait
de vous. La beauté intérieure aussi. Mais la beauté intérieure, bien sûr, on a tous une beauté intérieure, mais avant de pouvoir découvrir cette beauté intérieure, il y a d'abord le rapport physique, et la vue est le premier des sens que l'on exerce.
Alors j'aurais quand même que vous nous donniez quelques précisions, quelques détails sur cette chirurgie esthétique au masculin, car vous travaillez beaucoup et de plus en plus, et vous nous dites que les hommes constituent maintenant un marché important. Qu'est-ce qui nous obsède, nous les hommes? Qu'est-ce qu'on a envie de changer?
Les hommes ont le désir de séduire, mais aussi ils ont aussi des motivations professionnelles. Parce que comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a une question de crédibilité à partir d'un certain âge et sur le marché du travail. C'est très difficile de se replacer quand on est ingénieur, même si on a fait une grande école et qu'on a 50 ans et qu'on se retrouve sur le marché du travail. Et puis, dans d'autres professions, les hommes politiques l'ont bien compris, qui se font faire des liftings avant une campagne électorale, avant des échéances importantes.
Moi, le premier qui va venir me demander de me faire une couleur sur mes cheveux, je veux dire, il n'est pas arrivé. Et avec tout le respect que j'ai...
Il ne s'agit surtout pas qu'on vienne vous proposer de vous faire quelque chose, il s'agit que vous en ayez le désir profond, et c'est ça le drame du héros du roman de Jean-Marc Parisi, c'est justement ça, c'est qu'il ne souhaitait rien. Et donc le chirurgien ne doit jamais proposer quelque chose, il doit écouter la demande du patient et lui dire quelle est l'intervention, si c'est un lifting, si ce sont des paupières, si c'est une liposuction, quelle est l'intervention qui va répondre au désir de son patient.
Vous savez bien que c'est aussi, ça rentre aussi ensuite, comment dirais-je, dans l'inconscient collectif, que c'est une pression qu'on se met de plus en plus, les magazines, la télévision, il faut rester beau, il faut avoir les tablettes de chocolat, c'est ça quand même.
Oui, mais il y a une démarche personnelle derrière tout ça, et c'est pas Jean-Charles Naïebi qui me dira le contraire, il faut suivre son désir. Et il faut vraiment, il y a des patients qui ne passeront jamais par la chirurgie esthétique parce qu'ils se sentent bien, mais il y en a d'autres qui par contre n'arrivent pas toujours à franchir le pas, mais qui en ont un désir profond.
Jean-Marc Parisi, ensuite Jean-Charles Naïebi.
Oui, je voulais vous demander si pour vous la chirurgie esthétique ne relevait pas d'une part de mensonge quand même.
Mensonge de la part de qui?
Mensonge de la part de celui qui se la fait pratiquer, du patient
trompé,
en quelque sorte.
Il va tromper les autres sur son âge?
Non, je pense, non, c'est pas, et puis vous savez, il y a une carte d'identité quand même où on voit l'âge des gens.
Bien sûr.
Donc c'est pas à ce niveau-là, c'est un mensonge presque personnel.
On va offrir quelque chose de factice, c'est ça que vous voulez dire?
On va offrir quelque chose de factice aux autres, et puis aussi on va d'une certaine façon s'offrir aussi quelque chose de on sait que c'est pas vrai, on sait qu'on n'est pas nous. Alors, ça touche la question de l'identité.
Sylvie Abraham, j'ai envie de préciser un petit peu la question, je suis sûr que vous y répondrez. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on s'installe de plus en plus dans notre société dans une espèce de situation où, mon Dieu, le vrai, le faux, c'est pas grave, un original, un Turner, ou un Van Gogh, l'original dans le coffre-fort et puis le faux au-dessus de la banquette, bon, c'est pas grave. Non, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi un peu? Et je voudrais que le psychanalyste aussi nous le dise après, ce qu'il en pense.
C'est pas vraiment du faux, parce que quand à 60 ans vous retrouvez votre visage de 50, eh bien c'est pas du faux, c'est au contraire, comme le disait notre psychanalyste, un retour à ce qu'on a été. Et finalement, qu'est-ce qui nous trahit? Est-ce que ce ne sont pas les années qui nous trahissent? Justement, ce sont les années qui nous trahissent, et quand on retrouve un visage que l'on a connu, c'est très agréable. On est toujours soi.
Jean-Charles Naïebi.
Oui, il est évident que se réconcilier avec son image, si cela passe à travers la chirurgie esthétique, que cela ne relève pas évidemment des pathologies que nous connaissons, moi je considérais ça pas comme un mensonge, mais comme un retour vers l'équilibre. Alors pourquoi pas mensonge? Parce que si vous voulez, en ce moment-là, il faut prendre même un simple maquillage, qui est un travail d'embellissement, comme un mensonge. On va tomber dans le culte du pur, du naturel, du comme le bon Dieu m'a fait, ne mettons plus de parfum, parce que notre odeur de transpiration naturelle, c'est naturel. Ne maquillons plus nos femmes, ou ne laissons pas se maquiller, parce que cela pourrait avoir des conséquences séductrices, et ça insécuriserait les hommes, comme dans l'histoire, on a connu ça. Donc, si on prend n'importe quelle suggestion, qu'elle soit mentale, ou qu'elle passe par le biais de produits cosmétiques, ou par le biais de la chirurgie esthétique, on prend la suggestion comme un mensonge, en ce moment, on tomberait un petit peu dans tout mensonge. Et je ne pense pas que ça soit un raisonnement qui puisse tenir. Par contre, évidemment, la chirurgie esthétique, l'abus de la chirurgie esthétique pour laquelle le chirurgien n'a pas été compétent ou le chirurgien n'a pas évalué convenablement la demande, pose un problème de suite opératoire. Et nos cabinets voient tout de même débarquer des patients qui sont passés sur le billard, mais par la suite qui ont des problèmes d'identité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et comme Sylvie Labraham parlait tout à l'heure de la préparation, elle disait que le héros, le personnage de Jean-Marc Parisi n'était pas préparé, ça englobe un petit peu ces questions-là, et je ne pense pas qu'on soit vraiment dans le registre du mensonge.
Hein. Que les choses soient bien claires avant que Jean-Marc ne vous réponde, hein, Sylvie Labraham, vous faites un métier absolument extraordinaire, vous êtes certainement une grande professionnelle, et mes questions, elles sont, j'ai envie de dire, elles sont nécessaires, quand on voit tout de même la société dans laquelle on vit, et la pression avons. Hein, donc loin de moi l'envie de vous décrédibiliser.
Mais c'est vrai qu'on n'en est plus à l'âge de l'homme des cavernes. Il ne vous passerait pas par la tête que vous trompez votre monde quand vous vous rasez. Vous n'arriveriez pas avec une barbe de 3 mois à Europa. C'est pas possible. Vous vous lavez. Ce sont des gestes tout à fait naturels.
Bien sûr. Mais là encore, les choses ont évolué, vous le savez bien, en termes de vêtements et de ce qui était, ce qui n'était pas possible, ne serait-ce que 15 ou 20 ans, l'est aujourd'hui, y compris dans le monde des entreprises. Hein. Sans manquer, bien sûr, de respect aux autres. Moi j'ai une question terrible pour vous, et j'espère enfin au moins avoir une réponse aujourd'hui de la part d'une chirurgienne donc spécialisée dans la chirurgie plastique. Jean-Marc Parisi, vous vouliez répondre au psychanalyste.
Oui, alors qu'on soit très clair, le mensonge, je parlais du mensonge au sens où je pense que les gens qui ont recours à la chirurgie esthétique se mentent à eux-mêmes. Alors, je voudrais répondre au monsieur.
Je ne parle pas de ses opinions.
Non, attendez, je voudrais répondre au monsieur, parce que autant discuter, je suis tout à fait d'accord avec la notion d'artifice. Je suis tout à fait d'accord avec la notion d'une certaine façon, d'embellissement de la nature. Mais l'artifice, de toute façon, c'est baudelairien, il n'y a rien plus beau que le maquillage, on peut effectivement se grimer, tout ça c'est très bien, et l'authenticité est quelque chose d'assez trouble. Je suis bien d'accord avec vous. Mais quand je parle du mensonge, c'est autre chose. Parce que finalement, quand on a recours à la chirurgie esthétique à 60 ans, pour retrouver quelqu'un qui a 40 ans, si quelqu'un est beau à 40 ans, il le sera à 60 ans. Voilà, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je parle de mensonge parce que
là je suis d'accord.
Parce que
je veux dire un mot, là oui. Je suis d'accord Sylvie Labraham.
Moi j'avais un papa qui était prof de gym qui nous a quitté hélas, qui était beau, je peux vous dire, à 20, sublime à 20, très très beau à 40. Si vous saviez comme il était beau et canon à 70 ans.
Oui.
Sauf que le corps s'était affaissé, en effet, et qu'il n'y avait plus son corps de prof de gym de 20 ans.
Le problème n'est pas d'avoir un corps de 70 ans quand on a 70 ans. Le problème, c'est si on a 70 ans et que dans sa tête, dans sa vie, on en a 55. Donc il ne s'agit pas à tout prix de faire de la chirurgie esthétique parce qu'effectivement on a vieilli, mais c'est justement quand il y a une disharmonie entre ce que l'on paraît aux autres et ce que l'on se sent être soi-même chaque matin devant sa glace. C'est-à-dire que si en se levant on se dit moi je suis en pleine forme et que quand vous arrivez au bureau les gens vous disent, tiens, t'as l'air fatigué, Jean-Charles. Ah, ben oui, oui, ou Jean-Louis, ou Pierre-Louis. Parce que vous avez des, ce qu'on appelle vulgairement des valises sous les yeux, c'est-à-dire des poches sous les paupières inférieures, et vous êtes en pleine forme, et on n'arrête pas de vous dire que vous avez l'air fatigué. Eh ben, ça vous agace. Alors, et à la fin, eh ben, vous allez voir un chirurgien esthétique.
Question, Sylvie Abraham. Je voudrais vraiment que vous nous répondiez avec franchise.
Très volontiers.
Il y a eu, depuis une bonne dizaine d'années, il y a la mode. Là, je parle pour vous, les femmes, hein. Une mode qui touche les lèvres, la bouche.
Oui.
Bon, c'est une catastrophe. Faut très vite dire. Comment peut-on tolérer de transformer des filles qui sont belles en poisson noir?
Attendez. Alors là, je vais être très claire avec vous. Je pense au même nom que vous. À de très belles filles que l'on connaît, que l'on voit dans les magazines.
Non, je ne pensais pas à ces filles. Non,
parler de gens
que je vois dans la rue,
dans la rue, c'est autre chose parce qu'on ne sait pas comment elles ont été avant. Mais de très belles actrices et qui se sont fait gonfler les lèvres et qui sont vraiment, qui se sont enlaidies, je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, ça je dois vous le dire, c'est que je vois sans arrêt à mon cabinet des jeunes femmes qui ont une bouche tout à fait acceptable, qui veulent absolument se faire gonfler les lèvres. J'ai mon libre arbitre, j'ai beau être médecin, je ne suis pas obligée en matière de chirurgie esthétique d'opérer les gens pour lesquels j'estime qu'il n'y a pas d'indication. Donc je refuse à longueur d'année des femmes qui veulent se faire gonfler les lèvres et pour lesquelles ça n'est pas justifié. Ça peut être tout à fait justifié pour certaines, attention. Malheureusement, j'ai beau les refuser, je leur dis toujours, vous trouverez certainement quelqu'un d'autre qui le fera à ma place. Donc ça, je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui sont laides, c'est une mode, et le pire de tout, c'est que vous les trouvez moches, moi aussi, mais elles sont contentes.
Oui,
elles sont contentes parce que comme ce ne sont pas des produits permanents, et en général ce sont des produits résorbables, au bout de 6 mois, elles pourraient ne pas renouveler l'injection. Et bien elles le font renouveler. Je suis d'accord avec vous, c'est pas beau, ce sont les bouches becs de canard. Malheureusement, il y a aussi de la chirurgie inesthétique, mais ce n'est pas faire le procès là de la chirurgie esthétique.
Ouais. Jean-Charles Naïbi, je voudrais vous demander, alors c'est une question un petit peu une réponse de sociologue que je vous demande, enfin vous, je suis sûr que vous allez y arriver. Est-ce que la pression quand même que nous avons les uns et les autres va s'accentuer, ou est-ce que vous pensez qu'un frein va peut-être venir, qu'on va se mettre à être raisonnable?
Ah.
Savez, parce que je vois que de plus en plus jeune, la chirurgie...
À la rigueur, une question philosophique, et même pas sociologique.
Oui.
Non, il se trouve que l'être humain est capable d'aller très loin, dans des folies bien spécifiques. Et il se peut que nous assistions un petit peu à cette folie-là. Il y a un certain nombre de chirurgies esthétiques qui ne se pratiquent pas en France, mais je suis bien au courant que cela se pratique ailleurs. Et les Français vont se faire opérer, c'est le cas des prothèses pectorales diverses et variées. Je pense que, voilà, on assiste à une des folies de la modernité, et tant qu'il y aura la question de la standardisation de la beauté, tant qu'il y aura les médias, les magazines, les revues, la télévision qui vont apporter de l'eau à ce moulin-là, à cette extraordinaire machine, je dirais, de la standardisation de la beauté, cela continuera. Et nous assistons à des demandes, Sylvie Abraham peut le confirmer, de la part des gamines pratiquement 13 et 14 ans pour des interventions chirurgicales. Et ça, je ne vois pas encore un signe d'arrêt dans cette direction-là.
Vous nous confirmez, Sylvie Abraham?
Demande tout à fait étonnante, mais nous sommes des thérapeutes et nous ne devons pas répondre positivement à toutes ces demandes qui nous paraissent parfois totalement injustifiées ou prématurées ou excessives ou itératives. Et effectivement, à titre personnel, je récuse environ 20 à 30% des demandes.
Docteur Sylvie Abraham, la chirurgie esthétique au masculin, et nous y viendrons dans 5 petites minutes. Jean-Marc Parisi, physique chez Stock, derrière ce personnage, donc Patrick Langevin, qui est brutalement rajeuni. Moi je raconte pas la fin de l'histoire parce que elle est assez invraisemblable, c'est un magnifique texte. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose tout de même? Il n'y a pas, d'une certaine façon, l'inquiétude face à une société qui ne veut plus du silence, de la lenteur? Il faut être à droite et à gauche, au centre en même temps, partout à la fois. C'est ça aussi le...
C'est ça, c'est plutôt, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de...
Devant le micro.
Je parlais de mensonge en termes, c'est presque un mensonge métaphysique, je pense que c'est plutôt un rapport au temps. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne supporte plus le passage du temps. Et que je crois quand même que, je parle en écrivain, je pense que quand même il y a dans le phénomène de la chirurgie esthétique quelque chose qui relève de la négation de l'histoire et de la négation de l'histoire du corps dans le temps. Ça pourrait, d'une certaine façon, il y a une forme, quand on nie l'histoire du corps, on pourrait presque parler de révisionnisme esthétique, en fait, en quelque sorte. Parce que, finalement, qu'est-ce qui pousse à changer le travail du temps? Le temps serait-il si mauvais que cela? Je pose la question.
Là c'est Sylvie Abraham pour que vous répondiez, hein. Là, il est bon, hein. Là, il est bon, là, vous
avez... Le temps, malheureusement, n'agit pas de la même façon sur le corps et sur l'esprit. Et c'est toujours cette même problématique qui nous occupe en tant que chirurgien esthétique, parce que votre corps a vieilli et vous restez jeune dans votre tête. Et ça, c'est terrible.
Ouais.
Alors, évidemment, on aurait deux choix. Peut-être faudrait-il prendre des drogues qui nous fassent complètement renier toutes nos pulsions et on serait à 40 ans comme il faudrait être à 60, peut-être, c'est ça, peut-être. Alors, il y a des drogues psychiatriques qui vous permettent de vous anéantir, des neuroleptiques, des tas de choses, mais c'est pas ça la vie.
Ouais. Et le psychanalyste tout à l'heure qui est avec nous, Jean-Charles Naïvi, nous disait une chose très juste tout à l'heure. Vous parliez de la mélancolie en quelque sorte. En tout cas du travail de deuil à faire la jeunesse. Mais qu'est-ce que c'est bien la mélancolie aussi, hein? Ça nous fait faire des choses.
En fait, bon, ce qui se passe un petit peu concernant cette affaire de mélancolie, il est vrai que la chirurgie esthétique, qui n'est pas vraiment une révision de l'histoire ou une négation, mais une réparation peut-être des... effets du temps, cette affaire de mélancolie, en termes temporels esthétiques, est maintenant possible à travers la chirurgie esthétique, parce que, si vous voulez, pour accepter le vieillissement tel que nous l'entendons, il est évident qu'il va falloir faire le deuil de sa jeunesse.
Oui, parce que Sylvie Abraham et vous-même, Jean-Charles, le jeunisme, c'est pas nouveau. Les nazis en ont rêvé.
Les fascistes,
bon, ils en ont rêvé.
L'adhésion universelle, je vois pas pourquoi vous citez cet exemple.
Non, enfin, c'est quand même.
Non, mais il y a dans le jeunisme, il y a quelque chose de très mobilisateur. Et y compris dans les mouvements sociopolitiques du XXe siècle, qui ont cours encore, par exemple, en Moyen-Orient ou récemment dans quelques pays plus proches, les jeunes sont facilement, de par leur énergie, de leur force d'identification, sont facilement mobilisables.
Oui, je pourrais parler aussi des grandes spartakiades communistes, hein, pareil,
voilà,
hein, même chose.
Exactement, le cas a eu lieu. Donc, si vous voulez, le XXe siècle jonchait de ce jeunisme et des usages divers et variés qu'on en fait. Or, l'usage sociopolitique guerrière qui en a été fait, tout à l'heure je vous écoutais sur le cas d'Hiroshima, bon, évidemment, c'était pas des vieillards qui se mettaient dans les avions et qui faisaient des héroïsmes selon leur version. Donc les jeunes sont facilement mobilisables, et notre histoire récente et actuelle même est très jonchée de ça, et ce jeunisme-là, moi, je dirais que la faute n'incombe encore pas aux jeunes, mais à ceux qui savent l'utiliser. Alors, lorsque il y a culte de la jeunesse, il y a l'usage du mythe de la jeunesse, quand on voit les usages complètement abrasifs qu'on en fait, franchement, le cas que vous citiez tout à l'heure, qu'une dame de 60 ans veuille se rajeunir de 20 ans, me paraît tout à fait anecdotique.
Je voudrais, Sylvie Abraham, puisque nous sommes là vraiment dans le corps, hein, la beauté, la performance, je sais que vous réparez aussi, vous arrangez aussi notre sexe, hein.
Oui.
Je dis non seulement notre sexe, les hommes, mais le sexe de notre sexe, masculin et féminin, et la demande aujourd'hui, c'est la beauté, c'est la performance.
Ah non, là il ne s'agit pas de performance, il s'agit essentiellement d'aspect. Les hommes souhaitent parfois avoir un sexe de taille plus importante, aussi bien en longueur qu'en diamètre.
Vous êtes en train de me dire que si moi, par exemple, je trouve que j'en ai une toute petite, je peux venir vous voir et vous allez me la rendre longue?
Non, on en parlera, mais effectivement, c'est une intervention qui est tout à fait possible.
Je vous confirme qu'elle peut le faire. Il y a des cas.
On en parlera. Alors, non, non, mais on en parlera. Attendez, on est là pour en parler. On en parle maintenant et c'est pas douloureux.
Et oui, l'allongement et l'élargissement, comme toute intervention chirurgicale, c'est pas un massage, mais c'est une intervention. L'élargissement du sexe, c'est une intervention qui se fait en chirurgie ambulatoire. Et dès le lendemain, vous pourriez être au studio d'Europe 1.
Bon, maintenant, mais moi, ça y est. C'est trop tard, hein. C'est trop tard maintenant.
Mais vous êtes cité vous-même, donc je vous réponds en direct.
Oui, merci en tout cas.
Et le sexe féminin, effectivement, les femmes aujourd'hui demandent essentiellement des réductions de petites lèvres qui sont trop importantes et également des réparations du vagin après des accouchements qui ont provoqué des délabrements importants et une perte importante de sensations.
Mais ça, c'est une tendance quand même nouvelle.
Ce sont des interventions, effectivement, qui ne se pratiquaient pas il y a 30 ans.
Jean-Marc Parisi.
Oui, je voulais simplement demander, ça relève de la médecine ou pas?
De la chirurgie, oui.
De la chirurgie, hein.
Bien sûr.
D'accord. Ok. Ce que je voulais vous dire, c'est que je comprends parfaitement cette histoire de décalage entre la jeunesse de l'esprit, d'une certaine façon, et puis l'affaissement progressif ou le changement du corps. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même que en fait ça devient de plus en plus, finalement ça peut être encore plus triste parce que il restera quand même qu'on va mourir et il y a peut-être des gens qui vont mourir, peut-être ce serait ça l'intérêt, mais peut-être des gens vont-ils mourir aujourd'hui à 90 ans avec des têtes de 50 ans. Et ce sera encore plus triste, non?
Oui, mais quand ils mourront à 90 ans, ils auront bien vécu jusqu'à 90 ans. Le problème n'est plus la mort aujourd'hui. Le problème est de bien vivre jusqu'à la mort. Et comme justement l'âge de la mort recule à notre époque, autant donner à nos contemporains un visage qui nous permette d'avoir une vie en harmonie avec ce que nous pensons être, ce que nous voulons être.
Toujours est-il qu'on a passé un très bon moment. J'en suis persuadé également de l'autre côté du poste. Et un tout petit mot pour Laurent qui gentiment nous envoie et beaucoup de réactions, mais alors vous Sylvie ou Jean-Charles, une réponse. On peut se sentir bien dans sa peau à la quarantaine, plus épanoui qu'à 20 ans, et pourtant on voudra rester jeune, continuer des activités de jeune, nous dit Laurent. Il y a comme un paradoxe, comment vous inviter, explique-t-il cela. Jean-Charles?
Oui, le fait est que la conception moderne des choses fait que maintenant on ne considère plus la jeunesse comme un passage, mais comme un état dans lequel il faut s'installer. Alors, à partir de là, à 40 ans, effectivement, on peut faire du sport et faire plein de choses et d'être heureux. Et on peut le faire à 70 ans aussi. Encore une fois, il s'agit là de la question d'équilibre. Si à 70 ans, avec une calvitie avancée et la peau un petit peu flétrie, pour ainsi dire, pour utiliser un terme souvent utilisé, j'arrive être beau pour mes enfants, à être beau pour ma femme, et que j'arrive à assumer cela et que cela ne me pose pas de problème, mais bon Dieu, c'est pas la peine d'aller voir un chirurgien. Mais si à l'âge de 40 ans j'ai l'intime conviction que je suis là dans une sorte d'impasse et que je ne peux pas faire autrement que changer un problème qui est important pour moi sur mon visage, et ça va me permettre de repartir, mais pourquoi ne pas utiliser la possibilité que cette médecine-là, moderne, offre? Je suis persuadé que si la chirurgie esthétique, avec les résultats actuels, existait au 15e siècle, il y aurait toujours autant de demandes, parce que la demande, il y a eu toujours. Le problème, c'est le problème de la satisfaction de la demande. Évidemment, toutes les mesures écartées.
Je vous remercie mille fois les uns et les autres, Jean-Charles Naïebi, Sylvie Abraham, dont je rappelle le texte « La chirurgie esthétique au masculin » chez Mazarine. À bientôt Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Et Jean-Marc Parisi, dont je rappelle entre autres livres « Le lycée des artistes, la mélancolie des fast-foods », mais surtout ce physique chez Stock de Jean-Marc Parisi. À bientôt, à tout de suite.